On reçoit aujourd'hui François Ruffin pour un ouvrage qui s'appelle « La guerre des classes », paru chez Fayard, aussi étonnant que cela puisse paraître. François, donc, qui est journaliste pour un journal qui s'appelle Fakir sur Amiens, et puis pour l'émission « Là-bas si j'y suis », entre autres, et puis collaborateur aussi au Monde diplomatique. François, qui n'est pas a priori un marxiste pur et dur, formé à cette école-là, et qui... pourtant, emploie ces gros mots, la guerre des classes, qui est ce titre du bouquin sur lequel on peut apercevoir un bolchevique, couteau dans la bouche et chapeau de forme sur la tête. Alors François, comment on arrive à cette vision du monde aujourd'hui qu'on pourrait qualifier de marxisante, alors que, a priori, ton parcours à toi, c'est pas tout à fait celui-là?
De toute façon, au départ, il y a quand même une observation. C'est la réalité qui est comme ça. C'est pas le regard qui est comme ça. Je veux dire, ça fait des années que, quand on traîne pour les reportages de là-bas, si j'y suis, on se rend d'un côté dans un... On peut aller, par exemple, dans un foyer, un logement qui est foyer pour logement qui va fermer. Et 50 kilomètres plus loin, on se retrouve à Megève, dans un chalet avec un hammam à 30 000 euros la semaine. Donc, de toute façon, le clivage en termes de classe... On le pressent de manière immédiate dès qu'on fait un petit peu de reportage. Bon, et pour en avoir fait un petit peu plus qu'un petit peu, c'est quelque chose qui était devenu complètement intégré, mais de la même manière à Amiens. Il y a un an, tombait la nouvelle d'un plan social chez Goodyear, où ils ont mené une très forte bataille syndicale qui était menée. Et toute la presse locale s'en émeuvait. Généralement, ça n'atteint pas la presse nationale, ce genre d'information, mais toute la presse locale s'en émeuvait. Mais il y a quelque chose qui échappait à la presse locale. C'était une dépêche qui tombait sur Reuters. Et dans la dépêche qui tombait sur Reuters, qui émanait d'un communiqué de la direction américaine de Goodyear, il y avait trois fois le mot « restructuration » et trois fois le mot « bénéfice ». Et si vous voulez, je trouvais qu'il y avait un superbe équilibre, puisque là, on voyait bien, ça partageait clairement les vainqueurs et les vaincus. L'élection de Nicolas Sarkozy avec le dîner le soir au Fouquet's, l'annonce du paquet fiscal dans la foulée, c'est clair que même chez quelqu'un qui se sent pas le couteau entre les dents comme peut l'avoir le patron, puisque c'est un patron finalement qui se trouve sous la couverture, quelqu'un qui se sent pas en permanence le couteau entre les dents, qui est pas né... Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des parents communistes, pour ainsi dire. Ceci dit, par exemple, le moment de l'élection de Nicolas Sarkozy, le Fouquet's, le yacht, et un mois après le paquet fiscal, c'est des moments qui cristallisent quand même des choses. Maintenant, il y avait une impossibilité pour moi de l'énoncer. C'est-à-dire que si on vient dire c'est la lutte des classes, et finalement, en gros, c'est les patrons qui mènent cette lutte des classes et il n'y a pas de réponse en face, il y a le risque, il y a une autocensure, parce qu'il y a le risque de passer pour un gauchiste, pour un simpliste, pour, voyez, un diviseur, un démagogue, enfin, un populiste. Il y a des tas de vocables comme ça qui sont repris pour stigmatiser les personnes qui tentent simplement d'observer avec réalisme ce qui se passe. Et donc le déclencheur, bah, ça a été quoi? Ça a été que d'abord j'observais dans la presse des tribunes de Vincent Payon, qui était complètement creuse, hein, où il disait, je cite juste une phrase, mais où il disait « Il faut changer nos mœurs et apprendre à conjuguer autrement la richesse de notre pluralisme avec l'impératif de notre rassemblement et de notre efficacité ». Donc il y avait des tas de phrases, une bouillie verbale à laquelle on ne comprenait rien du tout, mais sinon qu'il y avait en permanence refondation, rénovation, modernisation à l'intérieur, mais on comprenait rien de cette bouillie verbale. Bon, moi, je me suis dit, je vais faire un truc simple, c'est un socialiste, je vais taper « lutte des classes plus Payon » sur Google. J'ai rien obtenu. Enfin, j'ai obtenu 24 000 résultats. Hein. On tape sur Google, on obtient toujours des résultats. Mais j'ai rien obtenu. J'ai pas obtenu une seule fois où Vincent Payon se serait prononcé sur la lutte des classes. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer plus à gauche. Donc j'ai tapé « Buffet » plus lutte des classes, donc Marie-Georges Buffet plus lutte des classes, et là encore, j'obtiens pas de résultat. Je vérifie, parce que ça me paraît quand même très surprenant, que la candidate du Parti communiste aux élections présidentielles de 2007 ne prononce pas l'expression lutte des classes, donc je vérifie dans la totalité de ses discours, enfin ceux qui sont disponibles sur Internet, et dans la dizaine de discours que je lis, non seulement il n'y a pas une seule fois l'expression lutte des classes, mais il n'y a même pas une seule fois l'expression classe. Donc là, on voit bien l'effacement de toute une tradition théorique qui est quand même importante. Peut-être qu'il ne faut pas jeter le bébé marxiste avec l'eau du bain stalinienne, quoi, pour ainsi dire. Mais en tapant buffet plus lutte des classes, le moment où je tombe, alors c'est peut-être à la 15e page de tout ça, mais sur l'expression lutte des classes, elle est prononcée en fait par, non pas par Buffett, mais par Buffett, avec deux T, c'est-à-dire par Warren Buffett, la première fortune, qui est aujourd'hui la première fortune mondiale, qui a dépassé Bill Gates, et qui déclare « la guerre des classes existe, c'est un fait, et c'est la mienne, celle des riches qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la remporter ». Alors il le faisait évidemment en version anglaise, mais le fait que ça soit la première fortune mondiale qui vient de dire « la guerre des classes, elle existe, et c'est nous, les riches, qui sommes en train de remporter cette guerre des classes », pour moi, ça ne m'apprenait rien, puisqu'au fond, ça disait ce que je pensais, mais c'était un libérateur. C'était un libérateur de mon autocensure. Ben non, j'étais pas un gauchiste, j'étais pas un simpliste, j'étais pas un démagogue quand j'ai c'est ça, puisque Warren Buffett lui-même le fait. Et je dirais que la fonction de cette phrase de Warren Buffett, c'est également, grosso modo, la fonction de l'ouvrage, qui est pas forcément là pour complexifier le monde, apporter des grilles analytiques extrêmement élaborées, et penser le présent et penser l'avenir, ainsi de suite, mais simplement pour décomplexer une partie de la gauche. Oui, on a le droit de parler de lutte des classes, parce que c'est même pas décider de la monnaie, c'est simplement observer ce qui se passe au moment présent. La lutte des classes, aujourd'hui, elle existe. Elle existe dans les quand il y a un grand plan bancaire qui décide de sauver les banques alors qu'il n'y a pas eu les mêmes mesures pour sauver un certain nombre d'entreprises ou que dans le même temps il y a des déremboursements de médicaments. Je veux dire, on met en place un plan, donc c'est pas le coût qui ce sera pas le coût final, mais pour la France, on évalue à 300 milliards d'euros le plan bancaire. Ça sera des prêts vraisemblablement, c'est pas des dons aux banques non plus. Mais enfin, on est prêt à mettre sur la table 300 milliards d'euros, 10 milliards d'euros dans l'immédiat. En même temps, on procède à des déremboursements de médicaments pour économiser quoi ? Quelques centaines de millions ? Voyez un peu la disproportion. Donc ça, c'est l'observation du présent. Ce n'est même pas la décision de mener la guerre des classes.
Et alors du coup, les déclarations donc, de Buffett montrent bien qu'il y a une guerre...
De Buffett,
alors pardon, qu'on prononce à l'anglaise, et qui n'est donc pas du tout... Enfin, le creusement des inégalités n'est pas du tout un phénomène naturel. Il est bien du coup désiré dans le cadre de cette guerre par les riches. Et du coup, aujourd'hui, on en est où de cette lutte des classes ? Parce qu'il y a donc un indice que toi, tu mets en évidence, qui est le fameux 9,3% que tu appelles le hold-up du capital, qui est en fait un glissement, enfin une part du PIB qui glisse du capital vers le travail.
Ouais. C'est-à-dire que si vous
C'est parlez... l'inverse.
Pardon ?
C'est le qui glisse du travail,
vers le capital, autant pour moi.
C'est-à-dire que si on vient dire, pour illustrer cette guerre des classes... si je viens dire « regardez Airbus » ou « regardez Goodyear » ou « regardez ce qui se passe à Longwy », si je vais dans la totalité ou « regardez ce qui se passe à Monaco avec ses super yachts et tout ça », si je vais dans la totalité, si j'aligne la totalité de mes reportages, on va toujours pouvoir me répondre « c'est partiel, c'est partial, c'est local, ça concerne les vieilles régions industrielles » et ainsi de suite. Donc, effectivement... J'ai trouvé un indice. Alors moi, je prétends l'inverse. Je prétends que d'abord, ce n'est pas partiel, mais c'est un constat objectif, que ce n'est pas partiel, mais au contraire, c'est global. Et c'est ce mot « global » que je trouve dans un papier qui est déterminant. Le titre du papier, c'était « The Global Upward Trend in the Profit Share », hausse tendancielle mondiale de la part des profits. Et ça, c'était dans un compte-rendu de la Banque des règlements internationaux. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, les banquiers... internationaux, donc le responsable de la Fed aux États-Unis, de la BCE en France, ils se retrouvent pour prendre des règles, pour édicter des règles prudentielles, enfin des tas de trucs compliqués, à Bâle, en Suisse, donc on voit que c'est sérieux puisque c'est en Suisse et les papiers sont énoncés en anglais, donc c'est vraiment doublement sérieux. Ils se retrouvent là-bas pour énoncer des règles prudentielles et tout ça. Et qu'est-ce que je trouve dans l'un des comptes rendus, dans l'une des études qui est menée par cette Banque des règlements internationaux? Je trouve ces phrases « La part des profits est inhabituellement élevée à présent et la part des salaires inhabituellement basse. En fait, l'amplitude de cette évolution et l'éventail des pays concernés n'a pas de précédent dans les 45 dernières années. » Donc vous voyez, on croirait un truc d'attaque ou de la CGT, et en fait non, on est dans c'est un constat objectif dressé par la Banque des règlements internationaux. Bon, alors je pourrais continuer de même avec des remarques d'Alan Greenspan et puis tout ça, mais quand on étudie en France... le glissement du partage de la valeur ajoutée, on tombe sur ce chiffre. Ce chiffre, c'est 9,3%. 9,3%, c'est le total. C'est-à-dire que si on prenait la manière dont étaient réparties les richesses en France en 1983, il y avait 9,3% des richesses de plus qui allaient aux salariés par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, ces 9,3% sont passés dans la poche des actionnaires. Donc ça, c'est un glissement absolument considérable. Ce qui est produit en France, c'est de l'ordre, le PIB de la France, c'est de l'ordre de 1 800 milliards d'euros. Donc c'est 9,3%, généralement on dit 10%, c'est 10%, c'est 180 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que le trou de la Sécu, cette année, il doit être aux alentours de 10 milliards d'euros à peu près, 11 milliards d'euros, c'est 18 fois le trou de la Sécu, vous voyez. C'est le déficit des retraites, c'est 5 milliards d'euros, c'est plus de 30 fois le déficit des retraites. Donc ça veut dire que si on reprend cet indice fondamental qui est la répartition des richesses dans ce pays, le déficit des retraites n'existe plus, le trou de la Sécu n'existe plus, et il y a un certain nombre de mesures qui sont possibles de prendre sans aucune difficulté. Donc c'est vraiment, c'est pour moi une dénoc capitale, c'est pour moi l'indice du bras de fer entre le travail et le capital. C'est comme s'il y avait un bras de fer qui se déroulait entre le travail et le capital, et c'est 9,3% qu'a gagné le capital sur le travail, et ben c'est l'indice de où se positionne ce bras de fer. Alors on peut se demander comment ça a été chopé, enfin je sais pas, je me pose...
Oui, on y va.
On peut se demander comment ça a été chopé, c'est 170-180 milliards d'euros par an, parce que cet indice synthétise toutes les évolutions économiques, en gros, de ces 25 dernières années. C'est-à-dire, le premier moyen évident pour supprimer des revenus au travail, c'est de supprimer du travail, c'est-à-dire de supprimer des emplois. Suppression de postes dans le public ou dans le privé, que ce soit dans le public ou que ce soit dans le privé, ça évite de verser des salaires. Donc c'est ça de plus qui est libéré pour le capital. C'est le premier moyen, donc, c'est la suppression de postes. Deuxième moyen... Eh ben, c'est la stagnation, on va pas dire la diminution, mais la stagnation des salaires. Et ça, c'est une étude de l'INSEE qui nous apprend que depuis 25 ans, les salaires ont stagné en France. Depuis 20 ans, la bourse, malgré la dernière crise, a été multipliée par 3,5, et pourtant, dans le même temps, les salaires ont grosso modo stagné en France. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'augmentation des temps partiels, des CDD, donc de la précarité, de l'intérim et ainsi de suite, puisque ça fait que le travail s'ajuste au plus près des besoins du capital. Et donc là-dessus, on est passé de 6 à 18% de l'effectif salarié en 20 ans qui travaille à temps partiel, donc c'était multiplié par 3, et on est passé de 17 à 31%, donc presque multiplié par 2, de contrats d'intérim, de CDD, de précarité, et ainsi de suite. Donc on voit bien là l'augmentation considérable de ce moyen-là. Et le dernier moyen qui a été trouvé, donc je répète, premier moyen, suppression de postes, deuxième moyen, stagnation des salaires, troisième moyen, contrat précaire, le dernier moyen qui a été trouvé, c'est de jouer sur les à côté du salariat. C'est-à-dire les à côté du salariat, c'est la sécu, c'est les retraites, ce sont ce genre de choses-là. Et l'analyse économique qui est menée, c'est que sur les salaires, la pression a vraisemblablement aujourd'hui été au maximum. On peut plus, on voit bien ce qui se passe avec les questions de pouvoir d'achat et ainsi de suite, il est difficile aujourd'hui de faire davantage pression sur les salaires. Donc ce qu'on fait, c'est que on fait cotiser plus longtemps pour gagner moins à la retraite, c'est qu'il y a des déremboursements de médicaments. Bref, on joue sur tout ce qui était les à côté du salariat. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, ce chiffre de 9,3%, il synthétise vraiment 25 années d'évolution économique.
Class war.
The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
What's up?
Drowning dog.
Coming through, check.
Class consciousness, huh?
It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay.
Yeah.
Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay. It's a class.
This is about
community.
This is about
freedom now.
This is about
power. And who has power and who doesn't?
This is about
class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
I'm always forced to do things that I don't want to do.
You know, shit jobs for your whole life.
It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for, who we fighting for, who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before.
It's like my grandma used to say.
Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war. It's a class war.
Yeah. Fuck yeah, class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Hip hop.
That it's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game.
Capitalist scum fuck.
It's a rich man's game.
It's about power.
Who has power and who doesn't?
It's a class war.
Say it loud.
It's a class war.
Yeah, yeah.
It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war.
Can you hear me now?
So it's a class war.
Yeah.
It's a class war. It goes on every day. Decisions for our life. I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war.
Class war. Class war.
Class war. Class war.
Class war. What's class got to do with
it? It's about power. It's about power.
Who has power and who doesn't?
Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay.
I'm a class conscious.
Mala, mala, mala besta.
Class conscious hip-hop.
The state.
The government.
Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, bro. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, true.
Mala, 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 mala.
A bang-a-lang-a-lang-a right here. EK crew bringing you class war. Malatesta on production.
You know.
Class War, et on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel pour les oreilles loin du front. On reçoit donc François Ruffin pour son ouvrage La guerre des classes, une guerre des classes qui apparaît au grand jour, puisque dans ton bouquin, François, la plupart des sources citées sont complètement publiques. C'est la presse, c'est des bulletins, c'est des notes de grands organismes financiers. Et pour autant, c'est une guerre dont on parle peu, en tout cas peu en ces termes-là. Et c'est un peu ce que tu montres aussi dans ton bouquin, c'est qu'il y a toute une partie de la classe politique, et plus particulièrement de la gauche, qui a complètement effacé de son vocabulaire ces mots-là, lutte des classes, guerre des classes.
Ouais. Alors, ce sont des choses qui sont publiques, mais qui sont quand même parfois confidentielles. Je citais ce rapport de la Banque des règlements internationaux. Je veux dire que peu de personnes sont au courant de l'existence de cette Banque des règlements internationaux. Et on ne peut pas dire que l'étude de cette banque, autant quand il y a une étude de l'OCDE qui dit que les Français doivent travailler plus, ça a de bonnes chances de se retrouver le lendemain en une du monde, autant quand la Banque la Banque internationale dit qu'il y a 9,3% de la valeur ajouté qui était piqué aux travailleurs et donné aux actionnaires, ça fait pas le lendemain la une du Monde, de Libération et du Figaro. Donc ce sont des sources publiques, mais quand même qui restent modestement publiques. Et pour revenir sur le fait que ça soit présent, il y a parfois un discours critique qui soit plus présent chez les libéraux presque que au Parti Socialiste, puisqu'il faut nommer le problème par son nom. Au printemps dernier, je suis tombé sur un papier dans le Financial Times qui s'intitulait « Income inequality seen as a great divide ». Donc c'était le titre, je le traduis, j'essaye, « L'inégalité de revenus considérée comme le grand clivage ». Et ensuite, dans cet article, qui était un article, je le rappelle, pas de l'UMA dimanche, puisqu'on parle en présence d'un journaliste de l'UMA, d'un papier du Financial Times, on lisait « L'opinion publique à travers l'Europe, l'Asie et les États-Unis est significativement homogène pour considérer que le fossé entre riches et pauvres est trop large et que les riches devraient payer plus d'impôts ». Ça veut dire qu'ils avaient lancé un sondage, le Financial Times, pour découvrir que dans l'ensemble des pays, que ce soit la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Japon, la Chine aussi, les États-Unis, et il disait même aux États-Unis qui d'habitude acceptent mieux les inégalités, mais même aux États-Unis, et surtout en Chine, regardez, les gens supportent de moins en moins les inégalités, et ils estiment qu'il devrait y avoir de plus en plus d'impôts mis sur les riches. Et on lisait... un rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement paru en 2005 a estimé que les 50 plus grandes fortunes du monde gagnaient plus que les 416 millions les plus pauvres. Et ensuite, un rapport publié le mois dernier par le Center... Attendez, non. Pour la...
Aïe.
Bon. Oui, donc on lisait aussi qu'il y avait eu la naissance d'une hyperclasse, et c'est le Financial Times qui parle d'hyperclasse, qu'il y avait la naissance d'une hyperclasse qui monopolisait les richesses. Et c'était dit comme ça dans le Financial Times. C'est-à-dire que le Financial Times lui-même s'inquiétait de cette montée des inégalités qui risquait, en gros, de produire une montée du ressentiment. Et quand je dis montée du ressentiment, c'est Alan Greenspan, l'ancien président de la Réserve fédérale américaine, qui parle comme ça d'une montée du ressentiment contre le capitalisme. Et ça, il parlait de tout ça avant la crise des subprimes, vous voyez ? Alors, ce qui est marrant quand on est dans ce contexte-là, c'est qu'au moment où paraît cet article... dans le Financial Times sur la montée des inégalités, le Parti socialiste est en train de voter sa déclaration de principe. Et ce qui est amusant, c'est que dans la déclaration de principe du Parti socialiste, on parle pas d'hyperclasse, on parle pas d'inégalité, on parle pas de montée des inégalités, on parle pas de millionnaires, on parle à peine de répartition des richesses, et il y a un effacement complet. C'est-à-dire que dans la déclaration de principe, qui finalement a été quand même votée à 84% par les militants socialistes au printemps dernier, qui est vraiment une déclaration de principe à l'eau de rose, depuis 1905, il y avait quelque chose qui avait été maintenu, même après les années Mitterrand, qui aurait pu encore plus laminer le Parti socialiste, mais il y avait quelque chose qui était maintenu, c'était la notion de confrontation de classe, l'existence de classes et de classes qui ont des intérêts qui divergent. Et bien ça, c'était liquidé par le Parti socialiste ce printemps. Alors c'est vrai que c'est d'autant plus amusant de considérer ça à l'automne. À l'automne, quand on entend maintenant Ségolène Royal qui fait un grand show en disant que les socialistes l'avaient toujours dit, que le capitalisme courait à sa perte. Quand on voit même Manuel Valls tenter de faire des revirements sur l'aile gauche. Mais enfin, il y a quelque chose qui est plus important que ça, c'est, enfin, il y a eu un effacement qui dure maintenant depuis des années de toute la doctrine, on va dire marxiste ou bien quelque chose comme ça. Toute la doctrine marxiste était complètement effacée. Mais surtout, il y a une désidéologisation. Les cadres socialistes sont aujourd'hui capables de raconter tout et son contraire en 24 heures, quoi. Et donc, bon, c'est sûr que face à ça, pour les contrer, on se retrouve un peu pris au dépourvu puisqu'ils sont capables de tout raconter en 5 minutes de temps, quoi.
Mais alors, du coup, ils parlent de quoi s'ils ont complètement déserté ce terrain-là ? C'est quoi leur discours actuellement ?
Bon, alors, il y a tout un discours, essentiellement le discours de Ségolène Royal, puisque ce sont ces discours que j'ai essentiellement étudiés durant la campagne présidentielle. Tout le thème de la répartition des richesses, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les discours de Ségolène Royal. Au moment de la campagne présidentielle, il y a eu une annonce, peut-être que vous vous en souvenez, mais c'était qu'il y avait eu des bénéfices records pour les entreprises du CAC 40, on atteignait 100 milliards d'euros, et il y avait eu des dividendes records qui avaient été versés, on versait 40 milliards d'euros de dividendes, rien qu'en dividendes, aux actionnaires. Donc c'était vraiment, et l'inquiétude du monde, des échos ou de la tribune, c'est que ça produise comme une bombe sociale, vous voyez ? Et finalement... Il n'y a pas eu de bombe sociale. Il n'y a pas eu de bombe sociale parce que quand on tapait milliards dans les discours de Ségolène Royal, on ne tombait absolument pas sur ces données-là. On tombait encore moins sur les 9,3% que j'ai cités tout à l'heure. Elle parlait davantage du déficit de la sécurité sociale que de l'enrichissement des riches, quoi, pour ainsi dire. Il n'y avait aucun adversaire de désigner. Au contraire, elle disait « Je ne nommerai pas d'ennemis ». La gauche, c'est en permanence... oui ? La gauche s'est en permanence construite pendant ce siècle sur le thème de la confrontation entre le capital et le travail. Et ça, c'est pas seulement les communistes ou les trotskistes, c'est pas seulement Besancenot aujourd'hui. François Mitterrand, dans les années 70, tient des discours très durs contre les maîtres de l'argent. Ça a été vraiment une constante de Jaurès jusqu'au Mitterrand de la fin des années 70, du discours socialiste, du discours de gauche, de confronter, de dire les intérêts du capital ne sont pas les intérêts du travail, nous avons des intérêts qui ne sont pas convergents. Et tout le discours de Ségolène Royal, à l'inverse, c'est un discours de réconciliation. C'est-à-dire que c'est finalement le discours de François Mitterrand de 1988. Du deuxième, c'était la France unie, maintenant c'est la France présidente. Mais c'est tout le verbe réconcilier est vraiment donné à toutes les sauces, mais en l'absence de répartition des richesses. Quoi. On ne parle plus du tout de répartition. Il ne s'agit plus de prendre à l'un pour donner à l'autre.
Et ce virage donc, du PS, donc, là qu'on. On charge un peu Ségolène Royal, mais donc il lui est bien antérieur, hein, puisque c'est Mitterrand dès les années 83, le grand virage du PS.
On peut considérer, moi je retrouve une citation, je retrouve une citation de Mitterrand qu'il avait fait à l'enjeu, où donc il faut savoir que Mitterrand jusqu'en 1981, c'est quelqu'un qui dans les meetings, donc j'en fais des, je ressors ça aussi dans les meetings, fait dire que c'est une confrontation de classe entre les salariés et cette poignée de privilégiés, c'est une lutte de classe qui est à mener. Et deux ans plus tard, en 1983, il apparaît à la télévision, c'est au moment de son grand virage de la rigueur et ainsi de suite, en disant que il faut signer une trêve des classes et puis bientôt la paix des classes, parce que les conditions de la paix des classes sont enfin réunies. On peut rien avoir, on peut ne pas être contre la paix des classes. Je veux dire, on n'est pas là pour mener une guerre permanente, une guerre civile. Ça paraît très malsain de vouloir mener une guerre civile. Le problème, c'est que sur cette même année, l'année d'après, il y aura l'ouverture des Restos du Cœur, il y aura la création des premiers contrats précaires qui sont les travaux d'utilité collective, et il y aura l'augmentation du chômage en un an de 25%. Donc ça veut dire que la guerre des classes, elle se menait, la gauche avait cessé de l'amener, mais il y en a d'autres qui continuaient à l'amener. Quoi, voilà. Mais donc effectivement, ça remonte à ce moment-là. Et pendant la campagne présidentielle de 2007, Ségolène Royal, quand elle cite deux modèles, humblement invité sur le plateau de France 2, ces deux modèles, c'est Jeanne d'Arc et le François Mitterrand de 1988, on précise bien. C'est-à-dire le François Mitterrand qui adresse une lettre aux Français dans laquelle n'apparaît plus le mot socialisme, qui a déjà renoncé à tout l'héritage de la gauche à ce moment-là. Et c'est de ça dont Ségolène Royal se fait l'héritière. Mais entre-temps, je veux dire, encore, ça pouvait être tactiquement judicieux, dans les années 80, au moment où le libéralisme avait le vent en poupe, ils étaient en train de tout gagner. En 2007... Il y a eu des choses qui se sont produites. Il y a eu, le référendum sur le traité constitutionnel de 2005. Il y a eu, l'année d'après, la lutte contre le CPE. Donc on sent bien qu'il y avait eu un changement d'air dans ce pays et qu'on pouvait être en attente d'un discours qui était plus volontaire, quoi.
Comme tu évoquais tout à l'heure le fait que le PS soit désidéologisé... Très dur, ces invités qui utilisent des mots qu'on n'arrive pas à redire. Mais est-ce qu'on peut parler d'abandon d'idéologie au sein du Parti Socialiste ou plutôt de passage de soutien d'une classe à une autre, c'est-à-dire l'abandon quasiment complet de soutien à une classe populaire au profit d'une classe moyenne supérieure urbaine, au travers notamment du changement complet de ses militants et certainement de ses dirigeants au sein du Parti Socialiste, puisqu'on voit bien que Sarkozy défend quasiment explicitement une classe sociale, quasiment dit telle quelle. Au Parti Socialiste, on a l'impression que c'est aussi le cas, mais ce ne sont plus les classes populaires.
Oui, je pense qu'effectivement... Alors, si on regarde, puisque je livre des statistiques que je ne vais pas ressortir là, mais si on regarde les attaches populaires du Parti Socialiste dans les années 70, ce n'est pas non plus un parti ouvrier, quoi. Le nombre de militants ouvriers dans le Parti Socialiste a été divisé par deux depuis cette époque-là, mais enfin, c'était déjà... On a dû passer de 10% à 5%, essentiellement. Mais les gens avaient en même temps des parents qui étaient ouvriers. Ça, c'est quelque chose qui est en voie d'exister de moins en moins. Même à l'intérieur le corps enseignant a beaucoup évolué, qui est une base sociale de la gauche. Il y a eu des évolutions dans le corps enseignant aussi. Donc effectivement, je pense qu'il y a tout ça qui joue. Mais il y a autre chose qui a joué aussi. C'est que peut-être que le Parti Socialiste, sans un parti qui le tire sur sa gauche, et je pense là, est-ce que François Mitterrand aurait tenu ce discours-là s'il n'y avait pas eu un parti communiste fort à l'époque ? Là, je me réfère à l'une des personnes que j'aimais bien, pour qui j'avais fait une interview pour La Bastille J'y suis, qui était Maurice Krigel-Valrimont. Donc qui était le libérateur, enfin l'un des libérateurs de Paris, qui a été député communiste à la sortie de la guerre, qui a mis en place, entre autres, qui avait voté, qui était l'un des signataires du texte du Conseil national de la résistance, qui a été l'un de ceux qui a mis en place le système de retraite, donc qui a pris part à un certain nombre de conquêtes sociales dans l'après-guerre. Et bon, il s'est retrouvé exclu par son parti parce qu'il n'a pas voulu être stalinien après Staline. Et je lui dis, mais pourquoi vous n'avez pas rejoint le Parti Socialiste à ce moment-là ? Les portes lui auraient été ouvertes. On lui aurait déroulé un tapis rouge pour qu'il ait une circonscription gagnée d'avance. Un héros de 1945. Il me dit, je n'ai jamais considéré que le Parti Socialiste était un moteur de l'histoire. C'est pas dans mon bouquin, tout ça. Mais je pense qu'effectivement, il faut mener cette analyse-là, qui est que le Parti Socialiste ne peut pas être le moteur de la gauche. Et que s'il n'y a pas quelque chose qui vient le pousser sur sa gauche, il n'avance pas. Moi, je me définis dans le bouquin comme social-démocrate. Enfin, on peut discuter de ce terme-là. Mais je pense que fondamentalement, si jamais à la gauche du Parti Socialiste, il n'y a pas quelque chose qui le tire et qui en fait un parti de gouvernement, mais un parti de gouvernement combatif, il revient à sa propre mollesse, qui est la mollesse, grosso modo, du parti radical, quoi.
Il me semble, François, que tu abordes quelque chose qui est essentiel dans ton bouquin et qui est assez novateur. Tu insistes sur le fait qu'il faut nommer l'ennemi. Alors, il me semble que c'était une consigne de Bourdieu qui donnait dans les années 70 en disant que c'était très bien, effectivement, d'étudier des concepts à l'œuvre, etc., mais qu'il fallait que les concepts, c'était une chose, mais qu'il y avait aussi des gens qui les véhiculaient et qu'il fallait les nommer. Mais enfin, qu'importe ma digression, ce que je veux dire, c'est que tu emploies des mots forts. Il me semble même qu'à un moment, tu écris qu'il faut organiser la haine. Nommer l'ennemi, organiser la haine, j'aimerais que tu développes sur cet aspect-là.
C'est-à-dire que moi, quand on traîne dans les quartiers populaires, moi je vais dans les quartiers populaires, par exemple, à Abbeville. Je discute avec les gens à Abbeville. Alors il faut voir qu'à Abbeville, bon, par exemple, au moment où j'y étais, c'est Valeo, et c'est encore Valeo qui est en train de liquider des emplois sur la zone industrielle d'Abbeville. Mais il y a eu Bébé Confort qui a fermé, Bisconor, enfin il y a eu des tas de boîtes qui ont fermé, et qui fait qu'en vérité, le quartier populaire qui s'appelle Quartier d'Espérance, quand un quartier s'appelle Quartier d'Espérance, généralement c'est pas bon signe, que ce quartier qui s'appelle le Quartier de l'Espérance était adossé à cette zone industrielle. À partir du moment où on vit de la zone industrielle, le quartier qui y est adossé se porte forcément mal, quoi. Donc ce quartier se porte forcément mal. Et quand on discute avec les gens, donc j'ai en tête ce mec qui a un enfant à lui et plus un jeune gars, hein, à peu près mon âge, plus deux autres enfants de sa nouvelle compagne, une première liaison. Ils sont sur ses genoux, ils sont en train de bouffer du chocolat et puis tout ça. Il me dit, moi, je suis obligé d'aller aux allocations à la CAF. Je peux bosser que le samedi. Je bosse au verri de la Somme le samedi. Je fais le ménage. Bon, et qui c'est qui trouve à détester à ce moment-là ? Parce que quand on est dans cette situation-là, on a besoin de comprendre de la faute à qui c'est. Et dire, regardez en bas de chez moi, qui c'est qui est en train de faire le chantier du bâtiment ? Il faudrait quand même qu'il y ait du travail pour tout le monde. Donc il navigue un peu, il dit pas les choses clairement, mais on comprend. C'est vrai qu'il faut pas qu'il y en ait que pour les Noirs et les Arabes. On est tous dans une république, donc il faut qu'on soit tous égaux. Et en gros, on comprend que celui qui stigmatise, alors il est face à des gens qui sont éduqués, il a un peu peur du regard qu'on peut porter sur son discours un petit peu raciste, donc il y va en mettant des gants, quoi. Mais en gros, c'est le problème, c'est l'Arabe qui est en bas de chez moi. Quand on discute avec... on traîne dans d'autres logements du quartier, le problème, c'est les assistés qui sont en bas de chez moi. Le problème, c'est les jeunes. Le problème... Vous voyez, il y a tout un discours sur tous ces micro-problèmes, les individus qui se haïssent les uns les autres dans cette cité, quoi, grosso modo. Et j'en discute avec un professeur de sciences politiques qui s'appelle Patrick Lehingue, et qui me dit les choses de manière assez simple, qui me dit, de toute façon, on a tous besoin, surtout quand ça va mal... on a une lecture très binaire des choses en termes de juste ou d'injuste. Soit c'est capital contre travail, les riches contre les pauvres, ou comme on dit, les petits contre les gros. Mais à partir du moment où cette lecture-là, la gauche a décidé que c'était une lecture qui était trop manichéenne, qui était populiste, que c'était pas bien, et puis tout ça, c'est une lecture qui est devenue abandonnée. Donc à la place de penser en riches contre gros, me dit Patrick Lehingue, on pense en dedans contre dehors, français contre étrangers, et ainsi de suite. Et donc, voilà pourquoi je pense que c'est nécessaire de repartir de ce conflit central entre capital et travail, et de dire aux gens, alors dans cet exemple-là, ce que je dis, c'est que c'est Lagardère qui est le responsable, grosso modo, d'une des catastrophes qui est en train de se produire dans la Somme, puisque dans la Somme, on avait une industrie de pointe qui était l'Airbus. C'est un truc qui est en train d'être délocalisé vers le Maroc. Et le mec qui s'en met dans les fouilles à ce moment-là, c'est Arnaud Lagardère. C'est-à-dire que Arnaud Lagardère, en une année, il a gagné, en une année de plan Power 8, il a gagné 306 millions d'euros, c'est-à-dire assez pour payer les 10 000 salariés qu'il va licencier pendant un an. Et donc, assez pour payer plein de gens sur Abbeville pour créer de l'emploi dans les hôpitaux et ainsi de suite. Donc là, je pense qu'en l'occurrence, il y a la nécessité de nommer, d'avoir des têtes de Turcs comme ça et de les proposer à la vindicte de la population. Et je nomme Arnaud Lagardère, je dis qu'il faut construire, il faut organiser la haine. Il faut dire aux gens, oui, vous avez des ennemis, vos ennemis, on peut les nommer. Alors, il ne s'agit pas forcément d'aller leur couper les têtes, mais il s'agit de... d'empêcher que ce système ne produise leur enrichissement permanent.
Il faut d'autant plus nommer Arnaud Lagardère comme un ennemi qu'il est dit de dangereux écrivains dont tu fais partie. Est-ce que tu es, François Ruffin, un auteur Lagardère, un auteur maison ?
Alors, c'est vrai que, donc, pour réexpliquer, le bouquin « La guerre des classes » paraît donc chez Fayard, Fayard étant une maison du groupe Lagardère. Honnêtement, si j'avais pas été publié chez Fayard, j'en aurais pas mis autant sur Lagardère dans mon bouquin. Et j'espérais honnêtement être censuré.
T'aurais voulu être un martyr de Lagardère.
Exactement. Ah,
ce qui est plutôt étonnant dans cette histoire, c'est pas tant l'histoire de la compromission, de dire traître à ta classe, tu vas travailler chez l'ennemi, mais c'est plutôt de dire que Lagardère publie ça, un bouquin intitulé « La guerre des classes » sans gêne, comme si finalement, du coup, c'était pas un livre dangereux du tout, comme si on prêchait dans le désert, comme si ce bouquin n'allait rien changer parce que les classes sont complètement divisées et de toute façon, c'est pas un bouquin qui va réveiller la conscience de classe.
Mais si je peux me permettre, Raphaël, moi je pense qu'au contraire, ça fait partie des stratégies éditoriales et des stratégies patronales de ce type de groupe. Je me rappelle de Jean-Marie Messier à l'époque de son apogée médiatique, et puis on a appris après que ça cachait en fait une débâcle financière, mais enfin qu'importe, je me rappelle de Messier qui se vantait sur tous les plateaux télé lorsqu'on lui disait « mais enfin, vous êtes dangereux », etc. Il disait « oui, mais moi, j'ai dit José Bové, j'ai dit Noir Désir, j'ai dit Manu Chao et Zebda. Et vous voyez bien, je suis un garçon ouvert d'esprit, il n'y a pas de problème, on est ouvert à la contestation, etc. Enfin, au contraire, ça devient Ruffin et une super caution pour Lagardère. Lagardère, il accepte qu'un type écrive chez lui qu'il faut grosso modo remonter un échafaud sur la place de la Concorde pour le décapiter.
Moi, je ne pense pas d'abord que Lagardère ait lu le bouquin, quoi. Non mais ça c'est le premier truc, c'est que c'est vrai que ça se passe pas comme ça dans une maison d'édition, et du coup si Lagardère avait été amené le bouquin, les choses se seraient peut-être passées de manière différente, mais c'est vrai que j'aurais aimé être censuré, pouvoir crier à la censure et partir ailleurs, quoi. Mais bon, voilà, donc vous aurez, si vous voulez vous procurer La guerre des classes, à moins de le voler, mais vous aurez à verser votre quote-part à l'enrichissement d'Arnaud Lagardère.
Argue.
Qui ça nous relève les bourgeoisies, c'est un groupe moun lan yon pays qui pas vivre tant qu'outil ici. C'est moun qui gonjan jan d'électi, qui capable commander la vie, qui pas pédé sac pipiti. Qui ça nous relève yon ou ennemi, l'on société qui définit chaque classe avec un jan de vie. Est-ce que c'est mettre toute factory, l'encens pa yo pour yo ka joui, ou sa cap si veille aiguilles? Ennemi des classes, pas doué de sien, pas doué zilien ni matirin, pas l'envoyé roche caché, mais sa qu'ennemi c'est sa cap krasen, pour ne pas vivre sans l'humanité, l'on société qui doit changer. Jou l'ennemi, ça son gros danger. Yo konn bien qui ça nous pensait. Et c'est pour pep na pelite. Tant qu'on nous même l'année passée, gon la bannière yo te kembe. Qui chappé, la guerre déclarée, la guerre déclarée, la guerre déclarée. Avec reste avec j'éclairé. Vieux patron blanc y a vénéré. Pour aider craser maléré. Par exemple, système des moitiés, magistrati avec la mais, c'est ennemi classe peuple tout côté. Comme nous capables d'analyser, yon pourriti pour s'allier, l'an erré nous pas prêt à le tomber. Où mais l'espèce Étienne Chalier, l'an bourgeoisie qui yoteye, t'es démaqué mal propreté. Ennemi de classe, pas doué lycéen, pas doué gilien ni matirien. Pas l'envoyer roche caché, mais. Sac ennemi, c'est sa cap crasen, pour ne qu'à vivre sans l'humanité. L'on société qui doit changer. Tu l'ennemi, ça son gros danger, yo con mien qui ça nous pensait. Et c'est pour peuple n'a pelité. Tant qu'on nous même l'année passée, bon la bannière yo te kembe, qui chapé la guerre déclarée. Ou mais l'espèce Étienne Chalier, l'en bourgeoisie que yo te démasqué mal propreté. Gérald Brisson, Yannick Rigaud, Alexis Général Solé. T'es démasqué mal propreté.
Vous êtes toujours à l'écoute des Oreilles Loin du Front. On reçoit François Ruffin pour son bouquin La guerre des classes. Et qui d'autre,
chez Fayard.
Chez Fayard, donc. Et qui d'autre mieux qu'un journaliste à l'UMA pour poser des questions sur la guerre des classes. Pierre, tu avais une question.
Oui, j'ai une question, François, sur un aspect que tu évoques largement dans ton bouquin et dont tu fais un ennemi, c'est celui de la complexité. La complexité qui est une espèce de je reprends ce qui m'a semblé comprendre en tout cas, une espèce de rideau de fumée médiatique et même politique derrière lequel on s'abrite. Beaucoup de gens s'abritent, mais vous savez, aujourd'hui, le monde est complexe, il y a beaucoup d'informations, il y a Internet, les blogs avec les téléphones portables, les gens s'informent, les gens filment et tout ça, et puis on comprend rien, et puis c'est vachement compliqué, il faut laisser la parole aux experts. Bon, tu dénonces un petit peu ça, pourquoi ?
Alors, je pense que c'est un... Alors, que les choses soient complexes, ça peut être une chose. Moi, je serais contre l'énonciation du fait que les choses soient complexes. Je pense que parfois, les choses sont simples. Je pense que parfois, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent, ou les pauvres ou les salariés. Enfin, qu'il y a un certain nombre de choses comme ça. Quand je parle de ces 9,3%, de ce glissement de la part de valeur ajoutée du travail vers le capital, quand on dit 100 milliards d'euros de bénéfices pour les entreprises du CAC 40, 40 milliards d'euros de dividendes versés, ce sont des choses simples. Et parfois, les choses sont très simples. Donc déjà, c'est une première chose. Mais ensuite... Il y a une position, notamment, je pense, à l'un des héros de mon livre, qui est Vincent Peillon, mais on pourrait dire la même chose de Manuel Valls. Il y a une position qui consiste à dire « les choses sont plus complexes, mais ce n'est pas pour tenter de les clarifier, c'est au contraire pour les rendre encore plus complexes et pour dire « bon, bah, d'une part, nous n'y pouvons rien ». Et d'autre part, le simple fait d'énoncer que les choses sont complexes, c'est comme si on avait l'air plus intelligent, vous voyez ? Et je prendrai une petite citation de Vincent Peillon. Alors, cette citation, dans un papier où il dit qu'il faut, il faut une refondation programmatique, avec revenir à la tradition individualiste, où il dit « les familles ne sont plus structurées de la même façon, l'espérance de vie, le rapport à la santé, à la vie et à la mort sont bouleversés ». Enfin, il énonce tout un certain nombre de choses comme ça. Et à la fin, il termine en disant qu'il faut commencer par faire l'analyse juste de la société et de la modernité. J'aurais juste... qu'on ausculte pendant une seconde ce bout de phrase, qui est un bout de phrase qui finalement passe complètement inaperçu, qui est un bout de phrase qu'on pourrait retrouver dans n'importe quel papier d'un socialiste, de n'importe quelle tribune dans le monde, d'un dirigeant socialiste. Je répète ce bout de phrase, c'est commencer par faire l'analyse juste de la société et de la modernité. C'est-à-dire que normalement, un homme politique, on peut considérer que c'est quelqu'un qui propose des moyens d'action sur le réel. Bon, là, Vincent Peillon ne propose pas directement des moyens d'action sur le réel. Il propose de faire l'analyse juste. Il propose même pas une analyse juste. Il propose même pas à l'intérieur de son papier une analyse juste de la société de la modernité. Il propose de la faire. Et finalement, il propose de commencer par la faire. Donc, vous voyez, c'est un peu comme si il y avait...
On va réfléchir à réfléchir.
Ouais, voilà. C'est comme s'il y avait huit couches de brouillard et derrière, il y a le réel qui disparaît. Il y a le réel qui disparaît, c'est aussi, je veux dire, c'est On a des tribunes là, donc je regardais les tribunes de Vincent Peillon, je regardais ce qu'il y a sur son site internet, puisque Vincent Peillon a été le non-élu, non-député d'une circonscription ouvrière qui est celle du Vimeux Rouge, qui a une forte tradition anarcho-syndicaliste dans la Somme, où il y a plein de boîtes qui délocalisent, La Perche, enfin des serrureries, c'est de la métallurgie, de la robinetterie, il y a plein de boîtes qui délocalisent, et à l'intérieur de ces papiers... dans tout ce qu'on lit sur son site internet, il n'y a jamais le mot Vimeux prononcé, il n'y a jamais le mot robinetterie, il n'y a jamais le mot métallurgie, il n'y a jamais le mot délocalisation, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire, là je dis, le réel, il est repoussé derrière 8 tonnes de brouillard, mais parce que le réel, pour Vincent Peillon, n'existe pas. Ce mec, qui est premier secrétaire du parti dans la Somme, n'a jamais mis les pieds à l'union locale des syndicats du Vimeux. Qui est quand même, bon, on dit il va aller discuter avec les syndicats, il n'est pas allé une seule fois discuter avec les syndicats à l'union locale, il est tellement peu présent dans sa circonscription qu'il n'a même pas été admis à voter dans sa circonscription aux dernières élections, puisqu'on a établi, il a été établi par un tribunal que M. Peillon n'avait pas de résidence sur sa circonscription. Donc on voit bien un éloignement du réel avec un mec qui fait la tournée des plateaux de télévision et des studios de radio, qui y est invité permanent, mais qui au fond a très peu de contact avec Jean-Pierre Raffarin, dirait la France d'en bas. Mais donc voilà, donc on comprend pourquoi le réel est si peu présent dans ses discours et pourquoi il dit « commencer par faire l'analyse juste de la société et de la modernité ». Alors, en vis-à-vis de ça, on peut relire des textes de Sarkozy, par exemple, pendant la campagne présidentielle. Quand on lisait, moi j'ai relu les discours de Royal, mais on n'y comprend rien. On ne comprend rien au discours de Royal, qui parle de réconcilier tout avec tout. Il n'y a pas de ligne de lecture claire. Moi, je vais vous épargner la lecture d'un discours de Sarkozy maintenant, mais le discours, par exemple, qui tient sur mai 68, est un discours tonique et extrêmement construit. On peut ne pas être d'accord avec ce que Nicolas Sarkozy énonce sur mai 68, n'empêche qu'il y a quelque chose qui est énoncé, et il y a quelque chose contre quoi on peut se battre, avec quoi on peut être d'accord ou pas d'accord. Et en revanche, par exemple, dans les discours de Ségolène Royal ou dans cette tribune de Vincent Peillon, on ne peut même pas ne pas être d'accord, puisqu'il n'y a pas de proposition. Il n'y a rien, il y a du flou. Les choses sont complexes, et bon, il faut qu'on admette qu'elles sont ainsi et qu'on aura bien du mal à les transformer, quoi.
Est-ce que tu sais et est-ce que tu souhaites que les partis politiques se saisissent de ton bouquin ?
Bah, évidemment. Enfin, les partis politiques, en tant que structure, je ne sais pas trop. Mais il est évident que normalement, c'est une arme qui est fournie aux militants. C'est une arme pour se décomplexer, pour décomplexifier le monde, pour dire non, les choses sont parfois pas si compliquées que ça. Et sur le terrain économique et social, il y a des mesures qui peuvent être prises. Il y a une marge de manœuvre économique. Elle existe. Il ne faut pas qu'on se laisse faire. Et c'est pas normal que... Alors par exemple, au cours de mon enquête, je discute avec le porte-plume de Marie-Georges Buffet, le porte-plume de la candidate communiste aux élections de 2007. Et je lui dis, c'est quand même bizarre, dans vos discours, il n'y a pas le mot classe, il n'y avait pas l'expression du déclasse, mais il n'y a même pas le mot classe, il n'y a rien de tout ça. Alors, elle dit, ah oui, bah tiens, c'est marrant, ça, vous me faites remarquer ça, j'avais pas remarqué. Bon, il se trouve que Marie-Georges Buffet, là, depuis 15 jours, 3 semaines, elle a retrouvé l'expression du mot lutte des classes, quoi. Mais donc, il me dit, on n'avait pas remarqué, c'est peut-être un symbole de tout ce qu'on a abandonné, qu'il faudrait qu'on retrouve. Donc vous voyez, je pense que il y a, je sais pas mal, et bon, la crise financière, il est évident que la crise financière accélère le mûrissement des esprits. Moi, quand je faisais des débats, puisque j'ai fait des débats là-dessus avant que le livre ne soit lancé, je faisais des débats il y a un an, donc dans des trucs qui étaient quand même bien à gauche, à attaque, ou voire avec d'anciens communistes, et puis tout ça. Et je disais, je vais faire un débat sur la lutte des classes. Quand j'annonçais ça à la salle croyait que c'était une blague. Elle croyait que je venais raconter une blague en venant faire un débat sur la lutte des classes, que je n'ai pas parlé de journalisme, puisque normalement, ayant écrit un bouquin là-dessus, j'étais invité pour parler d'information et de journalisme. Je disais non, ça, c'est plus ça la priorité. Maintenant, il faut travailler directement sur le terrain social. Il faut parler de la guerre des classes. Et les gens rigolaient dans la salle. Ils croyaient que c'était une blague. J'étais invité dans les Cévennes. J'avais dit, je souhaite intervenir sur la guerre des classes. J'arrive dans les Cévennes et pourtant, auprès de militants communistes, le titre de mon débat, ça devient non plus la guerre des classes, mais la lutte des classes a-t-elle encore vraiment un sens aujourd'hui ? Vous voyez le scepticisme qu'il y avait dans toute cette question. Je pense qu'effectivement, j'espère que mon livre va contribuer à remettre cette thématique, enfin, et un certain nombre de thématiques, parce que c'est quand même pas la seule qui est abordée au cœur de la gauche, le clivage qui existe depuis Jaurès, puisque Jaurès est l'une des figures sur lesquelles je m'appuie, qui existe depuis 1905, remettre ce clivage entre capital et travail au cœur de la gauche, mais il y a eu un mûrissement des esprits qui était dû à la crise financière. Quand j'énonçais ça au printemps, on me prenait, guerre des classes, on me prenait pour un fou. Maintenant, j'ai presque l'impression d'énoncer une banalité, quoi.
Simplement, moi, je voudrais terminer en rétablissant une certaine forme de vérité. Tu m'as appelé, François, à 18h, tout à l'heure, en me disant il faudrait que tu viennes à 19h à la radio Fréquence Paris Pluriel, qui est une excellente radio, pour m'interviewer. Je t'ai dit immédiatement, François, comme je t'ai toujours dit depuis qu'on se connaît.
Oui, mais, chef.
Mais simplement, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que tu m'as dit je te donne rendez-vous au métro Stalingrad. Est-ce qu'il fallait y voir un signe?
Je pense pas que... Non, je pense que, justement, on peut penser la gauche et penser, je voulais dire, par exemple, Vincent Peillon, dans ses tribunes, il dit qu'il faut lutter contre le dogmatisme stalinien. Je veux dire, si le dogmatisme stalinien était aujourd'hui la principale chose qui paralysait la gauche et qui faisait que les ouvriers étaient licenciés dans les usines, ça se saurait. Je pense qu'il faut se trouver d'autres ennemis que le dogmatisme stalinien. Moi, je suis d'une génération, j'ai 33 ans, je suis d'une génération qui n'a pas connu Staline, qui n'a pas milité au PC, qui n'est pas passé par tous ces trucs-là. Donc, je ne pense pas qu'on puisse... C'est l'avantage que j'ai. Moi, j'ai un parcours, j'étais au centre-gauche plutôt. Enfin, vous voyez, je ne pense pas qu'on puisse me renvoyer le fait d'être stalinien dans la figure. Alors qu'il y a un certain nombre de générations qui n'énoncent pas lutte de classe parce qu'ils ont peur qu'en parlant de lutte des classes, ils reviennent en même temps dictature du prolétariat. Moi, je pense qu'on peut avoir une optique de lutte des classes sans avoir une nécessité de la dictature du prolétariat, quand même.
J'ai essayé juste, pardon, de dérider un petit peu l'émission, mais donc tu me donneras pas rendez-vous la prochaine fois au métro Trocadéro dans le 16e arrondissement?
Non, plutôt au métro Jaurès.
Voilà, c'est la fin, et on recevait donc François Ruffin pour son bouquin La guerre des classes, et c'est pas une blague, publié chez Harlequin, et ça, c'en est une, et c'était sympa.